Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, Camillien Houd n'est pas une autoroute. L'intelligence artificielle va changer le travail. Et, pour les jeunes, c'est vraiment trop injuste. Bonne écoute.
Camillien Houd n'est pas une autoroute. Un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 24 juin 2023 dans La Presse. Ça fait longtemps que les solutions sont là, que c'est en discussion. Ce que ça prend, c'est de la volonté politique. Qui parlait ainsi de la voie Camillien Houd, qui n'est pas un modèle de sécurité pour les cyclistes? Valérie Plante. La chef de Projet Montréal critiquait l'inaction de l'administration Coderre en octobre 2017, au lendemain de la mort de Clément Ouimet, sur la voie Camillien Houd, sur le Mont-Royal. Le cycliste de 18 ans a été tué en descendant la voie parce qu'un véhicule a fait un demi-tour illégal devant lui. 5 ans et 8 mois plus tard, l'administration Plante n'a toujours pas réglé de façon définitive les enjeux de sécurité sur la voie Camillien Houd. À l'été 2018, Montréal a pourtant fait un projet pilote prometteur où la circulation automobile a été réduite de 80 % en semaine. On est passé de 10 000 à 2 000 autos par jour en semaine. Montréal a ensuite tenu une consultation publique et des automobilistes ont manifesté leur grogne. L'administration Plante a reculé. Elle étudie la question depuis. Au moins, la ville a installé des murets de béton sur une partie de la voie, puis des bollards en haut de la voie à la hauteur du belvédère. Mais les accotements restent étroits et la cohabitation auto-vélo est tout sauf optimale. Le 8 juin 2023, en fin d'après-midi, un autre accident d'auto aurait pu être fatal pour un cycliste. Une auto a heurté le muret qui sépare les deux directions de la voie Camillien Houd avant de s'échouer à l'envers près des arbres en bordure de la route. Heureusement, aucun cycliste ne descendait Camillien Houd à ce moment-là. Par contre, un cycliste faisait l'ascension dans l'autre direction. Son muret, la voiture aurait pu le heurter violemment. On l'a échappé belle le 8 juin, mais on ne peut pas croiser les doigts éternellement. L'administration Plante dévoilera cet automne son plan pour la voie Camillien Houd et le chemin Remembrance. Elle étudie encore plusieurs scénarios, mais les documents budgétaires de la ville sont clairs. On réduira l'espace dédié aux déplacements en automobile. On souhaite que ce plan respecte 4 principes. 1. Le Mont-Royal n'est pas une autoroute. 2. La sécurité des cyclistes est primordiale et doit être améliorée. 3. On doit améliorer le transport collectif. 4. Il est irréaliste et contre-productif d'interdire complètement les autos. La décision de l'administration Plante, qui a fait beaucoup pour le vélo à Montréal depuis son élection, mais qui s'est traîné les pieds dans le dossier de Camillien Houd, ne pourra plaire à tout le monde. Notre vision? Le Mont-Royal est le plus grand parc de Montréal et les voitures ne devraient pas s'y entasser aux heures de pointe. D'accord pour que les automobilistes puissent se rendre sur le Mont-Royal pour profiter de notre belle montagne, mais on doit mettre fin au trafic causé par les voitures qui ne font que traverser le Mont-Royal pour gagner du temps. C'était l'idée du projet pilote de 2018 qui interdisait le trafic de transit. On pouvait accéder au lac des Castors par Remembrance, on pouvait accéder au Belvédère et à la maison Smith par Camillien Houd, mais on ne pouvait pas traverser le parc en auto. Seule exception, les autobus et les visiteurs du cimetière. Sinon, vous aviez une amande salée. On devrait s'inspirer fortement de cette solution. Ce n'est pas d'hier qu'on discute de réduire la place des autos sur le Mont-Royal. En 1990, le Bureau de consultation de Montréal avait recommandé d'empêcher les autos de traverser le Mont-Royal, comme pour le projet pilote de 2018. On n'est pas les seuls à faire cette réflexion. À New York, les voitures ne traversent plus Central Park depuis 2018. Certains New-Yorkais ont dû changer leurs habitudes, mais leur vie ne s'est pas écroulée. Moins d'autos améliore la sécurité des cyclistes. Mais ça n'élargit pas la voie. Il n'y a pas assez d'espace physique pour deux voies cyclables, montée et descente, et deux voies routières. Vélo-Québec a une suggestion intéressante. Une voie séparée pour les vélos et une voie pour les autos en montant, ils roulent à des vitesses différentes, et une seule voie pour les vélos et les autos en descendant, ils roulent à la même vitesse. La Valérie Plante de 2017 a raison. Il faudra de la volonté politique pour cesser de faire du Mont-Royal une autoroute urbaine. Ce n'est pas normal que le plus grand parc de Montréal soit plus achalandé que plusieurs autoroutes du Québec. C'était « Camillien Houde n'est pas une autoroute », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 24 juin 2023 dans La Presse.
L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. En 2013, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié des chiffres surprenants sur l'avenir du travail. Ils estimaient que 47% des emplois américains étaient menacés d'automatisation dans un nombre d'années non précisées, peut-être une ou deux décennies. 10 ans plus tard, le taux de chômage dans le pays a atteint un niveau historiquement bas. Le tsunami de titres sinistres de l'époque, comme « Les riches et leurs robots sont sur le point de faire disparaître la moitié des emplois dans le monde », semble tout à fait erroné. Mais les auteurs de l'étude affirment qu'ils n'avaient pas l'intention de suggérer que l'apocalypse était proche. Ils essayaient plutôt de décrire ce dont la technologie était capable. Il s'agissait de la première tentative de ce qui est devenu une expérience de pensée à long terme avec des groupes de réflexion, des groupes de recherche d'entreprise et des économistes qui publient article après article pour déterminer dans quelle mesure le travail est affecté par ou exposé à la technologie. En d'autres termes, si le coût des outils n'entrait pas en ligne de compte et que le seul objectif était d'automatiser autant que possible le travail humain, quelle quantité de travail la technologie pourrait-elle prendre en charge? À l'époque où les chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael A. Osborne, menaient leur étude, IBM Watson, un système de réponse aux questions alimenté par l'intelligence artificielle, IA, venait de choquer le monde en remportant le jeu Jeopardy. Des versions d'essais de véhicules autonomes circulaient pour la première fois sur les routes. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'études suit l'essor des outils qui utilisent l'IA générative. En mars 2023, Goldman Sachs a estimé que la technologie sous-jacente aux outils d'IA populaires comme DALL-E et ChatGPT pourraient automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Des chercheurs d'OpenAI, le concepteur de ces outils, et de l'Université de Pennsylvanie ont constaté que 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir un effet sur au moins 10 % de ses tâches. L'incertitude est énorme, a indiqué David Autor, professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui étudie les changements technologiques et le marché du travail depuis plus de 20 ans. Et les gens veulent apporter ces réponses. Mais que signifie exactement l'affirmation selon laquelle, par exemple, l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein pourrait être affecté par l'intelligence artificielle? Cela dépend, selon M. Autor. Affecté peut signifier améliorer, aggravé, disparu, doublé. Le fait que la technologie tende à automatiser des tâches et non des professions entières est un facteur de complication. En 2016, par exemple, le pionnier de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a étudié une nouvelle technologie d'apprentissage profond capable de lire des images médicales. Il a conclu que si vous travaillez comme radiologue, vous êtes comme le coyote qui a déjà franchi le bord de la falaise, mais qui n'a pas encore regardé en bas. Il prévoyait 5 ans, voire 10 ans, avant que les algorithmes ne fassent mieux que les humains. Ce qu'il a probablement oublié, c'est que la lecture des images n'est qu'une des nombreuses tâches, 30 selon le gouvernement américain, des radiologues. Il s'occupe également de s'entretenir avec des professionnels de la santé et de donner des conseils. Aujourd'hui, certains professionnels du secteur s'inquiètent d'une pénurie imminente de radiologues. Et M. Hinton est depuis devenu un critique public virulent de cette même technologie qu'il a contribué à créer. Vous écoutez? L'intelligence artificielle va changer le travail. Mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. Frey et Osborne ont calculé leur chiffre de 47 % en partie en demandant à des experts en technologie d'évaluer la possibilité d'automatiser des professions entières comme télévendeurs ou comptables. 3 ans après la publication de leur article, un groupe de chercheurs du centre ZEW pour la recherche économique européenne, établi à Mannheim, en Allemagne, a publié une étude similaire qui évaluait des tâches comme expliquer des produits ou des services et a constaté que seulement 9 % des professions dans 21 pays pouvaient être automatisées. Les gens aiment les chiffres, a affirmé Melanie Arntz, autrice principale de l'étude du ZEW. Les gens pensent toujours que le chiffre doit être solide d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un chiffre. Mais les chiffres peuvent vraiment être très trompeurs, selon Melanie Arntz. Dans certains scénarios, l'intelligence artificielle a essentiellement créé un outil et non un remplacement complet de l'emploi. Vous êtes maintenant un terrassier qui peut utiliser une excavatrice au lieu d'une pelle. Ou une infirmière praticienne ayant accès à de meilleures informations pour diagnostiquer un patient. Il est possible que vous deviez facturer plus cher l'heure, car vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Dans d'autres cas, la technologie remplace votre travail au lieu de le compléter. Ou encore, elle transforme votre travail qui exige des compétences particulières en un travail qui n'en exige pas. Il est peu probable que cela se passe bien pour vous. Une sonnette d'alarme. Même si un emploi devient complètement automatisé, le sort des travailleurs déplacés dépendra de la manière dont les entreprises décideront d'utiliser la technologie pour de nouveaux types de travail, en particulier ceux dont nous ne pouvons pas encore imaginer, a expliqué Darren Acemoglu, professeur au MIT et auteur de « Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity ». Ces choix porteront notamment sur l'automatisation complète du travail ou sur l'utilisation de la technologie pour accroître l'expertise humaine. Il a déclaré que les chiffres apparemment effrayants, prédisant le nombre d'emplois que l'IA pourrait supprimer, même si l'on ne sait pas exactement comment, étaient une sonnette d'alarme. Il pense que les gens pourraient prendre une meilleure direction, mais il n'est pas optimiste. Il ne pense pas que nous soyons sur une voie pro-humaine. Toutes les estimations concernant la quantité de travail que l'IA pourrait prendre en charge dépendent fortement des humains. Les chercheurs qui font des hypothèses sur ce que la technologie peut faire. Frey et Osborne ont invité des experts à un atelier pour évaluer la probabilité d'automatisation des professions. Les études plus récentes s'appuient sur des informations telles qu'une base de données recensant les capacités de l'IA, créée par l'Electronic Frontier Foundation, un groupe à but non lucratif de défense des droits numériques. Elle s'appuie également sur des travailleurs utilisant des plateformes telles que Crowdflower, où les gens accomplissent de petites tâches en échange d'argent. Les travailleurs évaluent les tâches en fonction de facteurs qui les prédisposent à l'automatisation. Par exemple, si la tolérance à l'erreur est élevée, il s'agit d'un meilleur candidat à l'automatisation pour une technologie comme ChatGPT. Les chiffres exacts ne sont pas la question, affirment de nombreux chercheurs impliqués dans ce type d'analyse. Je décrirai notre méthodologie comme étant presque certainement erronée, mais, espérons-le, pointant dans la bonne direction, a déclaré Michael Shui, expert en intelligence artificielle chez McKinsey, qui a été l'un des auteurs d'un livre blanc de 2017 suggérant qu'environ la moitié du travail et 5 % des professions pourraient être automatisées. Ce que les données décrivent est, à certains égards, plus banal qu'on ne le pense souvent. De grands changements sont à venir et il vaut la peine d'y prêter attention. Cet article a été publié à l'origine dans The New York Times. C'était « L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? » Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse.
Pour les jeunes, c'est vraiment trop injuste. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 24 juin 2023 dans La Presse. Les temps sont durs pour les jeunes qui quittent le nid familial. Ils ont beau être plus scolarisés que par le passé, travailler et gagner davantage que les générations précédentes, l'explosion du prix des loyers et des maisons leur coupe les ailes. On flirte avec l'iniquité intergénérationnelle, juge Guy Cormier, président du mouvement Desjardins, qui accueillait cette semaine des centaines de jeunes à la Tohu pour imaginer des solutions aux défis qui les touchent. La crise du logement, les changements climatiques, la santé mentale en berne. C'est vraiment trop injuste, comme le répétait Calimero, poussin malchanceux d'un dessin animé des années 1970. Malchanceux, les jeunes d'aujourd'hui? Ça dépend des points de vue. Les X rétorqueront qu'ils ont dû se contenter de McJobs en sortant de l'université, car le taux de chômage était 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Et les boomers diront qu'il n'y avait ni service de garde ni congés parentaux à leur époque et que leur hypothèque leur coûtait 20% d'intérêt. Tout cela est vrai. Mais en ce moment, il faut reconnaître que l'inflation, particulièrement forte à l'épicerie et dans le logement, frappe plus durement les personnes à faible revenu et donc les jeunes. D'ailleurs, les moins de 30 ans sont la seule tranche d'âge à consacrer plus de la moitié de ses dépenses de consommation aux biens essentiels, note l'économiste en chef du mouvement Desjardins dans une série d'études fort intéressantes sur la jeunesse. Avec la crise du logement, les loyers n'ont jamais été aussi rares en 20 ans et les maisons n'ont jamais été aussi peu abordables depuis une génération. La crise environnementale n'aidera pas. Incendie de forêt, inondations, les catastrophes naturelles qui nous frappent vont éroder davantage l'abordabilité du logement en gonflant les coûts d'assurance de dommages. De manière plus large, les coûts associés au changement climatique risquent d'accentuer l'inflation, ce qui pourrait réduire les profits et augmenter les taux d'intérêt, avertit la Banque du Canada. Rien de bon pour les finances des jeunes qui sont nombreux à ne plus faire d'enfants pour ne pas nuire davantage à cette planète détraquée dont ils ont hérité. Mais tout n'est pas noir. Au contraire, le Québec a accompli de belles avancées depuis 20 ans en matière d'équité intergénérationnelle. Par exemple, on a donné un coup de barre au régime des rentes du Québec, RRQ, en relevant le taux de cotisation pour s'assurer qu'il restera de l'argent dans la cagnotte afin de payer les rentes des jeunes. En plus, on a bonifié le régime pour aider les nouvelles générations qui ont moins accès à un régime auprès de leur employeur. Sur le front des finances publiques, Québec a aussi fait des progrès considérables, notamment avec la création du Fonds des générations. Pendant des décennies, on pouvait sérieusement craindre que Québec ne soit pas capable d'offrir aux générations futures les mêmes services sans les taxer davantage. Un signe flagrant d'iniquité. Mais le vent est en train de tourner. Nos finances publiques entrent dans une zone de soutenabilité à long terme, selon la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui présentera bientôt une nouvelle analyse sur le sujet. Voilà une excellente nouvelle pour les jeunes. Continuons sur cette lancée. L'équité intergénérationnelle doit être un phare qui guide la gestion de nos finances publiques. Concrètement, que pouvons-nous faire? Résister à la tentation de réduire les versements au Fonds des générations pour s'accorder des baisses d'impôts, alors que le budget du Québec est encore dans le rouge et que les services et les infrastructures sont aux soins intensifs. C'est inéquitable envers les jeunes. S'attaquer au déficit d'entretien de nos infrastructures, un déficit de 35 milliards qui ne cesse de s'accroître. On ne veut pas laisser aux jeunes des routes, des hôpitaux et des écoles qui s'écroulent. Il faut un plan solide et transparent, à l'image de celui qui nous a permis de reprendre le contrôle de nos finances publiques à partir des années 1990. Éviter de lancer de nouveaux projets d'infrastructures publiques, comme le troisième lien, qui accapareront la main-d'œuvre déjà rare et feront grimper les coûts de l'entretien des infrastructures existantes ainsi que de la construction et de la rénovation résidentielle. Doubler la construction de de logements pour réussir à combler la demande. Pour cela, il faut retirer les obstacles qui freinent les mises en chantier résidentielles, qui sont plutôt en forte baisse. Pour cela, il faut notamment modifier le zonage pour mieux densifier les villes où le transport en commun est offert. Une façon intelligente de combattre la crise du logement et de l'environnement en même temps. Prévoir des budgets pour adapter au changement climatique les infrastructures municipales, une facture annuelle de 5,3 milliards, selon le Bureau d'assurance du Canada. Et bien sûr, trouver la volonté politique pour atteindre nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Investir en santé mentale, car la pandémie a été particulièrement dure pour les jeunes, en particulier les femmes. Offrir plus de flexibilité travail-famille, mais aussi plus de mentorat pour éviter qu'ils se retrouvent dans le vide au travail. Seuls devant Zoom. Bref, au lieu de se crêper le chignon entre générations, travaillons ensemble pour dégager les nuages qui assombrissent l'avenir des jeunes. Ultimement, toute société en profitera. C'était « Pour les jeunes, c'est vraiment trop injuste », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 24 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.